Vous êtes sur RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quoi de mieux pour bien démarrer le week-end que le joyeux rituel du samedi matin de 9h15 à 10h, à savoir écouter Nous voilà bien. Cette émission, on la prépare chaque fois aux petits oignons, rien que pour vous sur RTL, à leur place au sommaire. C'est une tendance qui n'est pas vraiment à l'avantage des consommateurs. Connaissez-vous le dropshipping? Comment ne pas tomber dans le panneau des produits bas de gamme vendus sur Internet à des prix gonflés? Romain Roussel, directeur de cabinet de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, va nous éclairer sur le sujet. Les applis de rencontre cartonnent et pourtant font-elles vraiment la joie de celles et de ceux qui recherchent l'amour? Adriane de San Isidoro, chef de la rubrique équipement et loisirs à 60 millions de consommateurs, a mené l'enquête. Elle ravit les papilles, des grands comme des petits, mais comment cuisiner la fraise? Sonia Esgulian, cuisinière, auteur et journaliste, va nous faire saliver.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Philippe Catherine sur RTL avec les mensonges. Romain Roussel, bonjour.
Bonjour.
Dis donc, c'est une blague pour vous présenter. Hein. Vous êtes directeur de cabinet de la DGCCRF.
On vous appelle souvent la répression des fraudes.
Voilà, exactement. Merci à vous d'être avec nous. Alors, c'est quoi le dropshipping? C'est la livraison directe, comme on l'appelle plus communément. C'est quoi exactement?
Alors, en fait, c'est une modalité de vente à distance dans lesquels les consommateurs passent commande sur un site internet. Ouais. Ils passent commande auprès d'un vendeur, mais ce n'est pas le vendeur en fait qui gère la commande. Lui n'est en charge que de la commercialisation du produit. En fait, c'est le fournisseur qui est partenaire de ce vendeur qui se charge à la fois de la gestion du stock et de l'expédition de la marchandise au consommateur.
Mais est-ce que moi, en tant que consommateur, je sais que je suis face à un intermédiaire?
Alors très souvent, en fait, les consommateurs n'ont pas conscience de l'existence et du rôle incombant à ce fournisseur. D'accord. Et c'est là une des difficultés de l'exercice.
Ouais, je comprends. On parle de quel type de produit? On parle uniquement des cordons de téléphone?
Alors non, pas du tout. Ouais. Le dropshipping ou livraison directe concerne un très grand nombre de produits, très souvent des produits à la mode qui sont effectivement promus sur les réseaux sociaux. Ça peut aller des bijoux fantaisie à des petits matériels d'électronique. Ou alors en période de Covid, on a pu voir fleurir des sites de dropshipping spécialisés dans les masques, les gels hydroalcooliques ou même des dispositifs plus critiquables comme les épurateurs d'air ou certains remèdes prétendument miracles.
Voilà, ils ont en fait surfé hein, évidemment sur les inquiétudes des Français. Alors je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais en préparant cette émission, j'ai appris justement qu'un produit avait cartonné ces derniers temps. Attention, c'est la tondeuse à testicules des hommes. Je ne sais pas si c'est une inquiétude pour les hommes, mais vous en avez entendu parler ça, Romain Roussel? Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler.
Alors en fait, à travers notre centre de surveillance du commerce électronique, nous surveillons tout un grand panoplie d'arnaques et de sites frauduleux. Et donc, nous sommes vigilants dès qu'un nouveau produit, effectivement, potentiellement, soit non conforme, soit dangereux.
Parce que c'était le cas de cette tondeuse.
Voilà, on peut penser, effectivement, que dans ces cas-là, il faut être particulièrement vigilant au niveau des consommateurs.
Ah bah, vous m'étonnez, surtout quand il s'agit, effectivement, des testicules. Dites-moi, ce type de pratique s'attend vraiment à se développer? Pourquoi?
Alors, en fait, le dropshipping, c'est une modalité de vente par Internet qui s'est pas mal développée ces dernières années et qui a généré un grand nombre de signalements auprès de la DGCCRF pour des pratiques commerciales trompeuses ou des produits que les gens ne recevaient pas, par exemple, ou qui n'étaient pas conformes.
Romain Roussel, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quels sont les avantages pour les revendeurs?
Alors en fait, pour les vendeurs, un des intérêts principaux est de ne pas avoir de stock de produits à gérer et de ne pas avoir à se charger de l'expédition des produits, parce que ce sont les fournisseurs qui font tout ça directement.
Ok, d'accord. Donc en fait, c'est plus pratique pour eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux aussi, quelque part, ouvrir ma boutique de dropshipping?
Alors en fait, c'est ce que vous font croire un grand nombre de formateurs en ligne qui se rémunèrent très souvent avec ces formations payantes. Mais en fait, il faut quand même respecter un certain nombre de lois et de dispositions légales pour pouvoir être un dropshipper. En particulier, il faut être inscrit au registre du commerce, même pour un simple particulier.
Ok. Dites-moi, si on en parle aussi aujourd'hui et qu'on parle quelque part d'arnaque, c'est que c'est pas toujours éthique cette histoire-là?
Alors, en fait, ce qui est important, c'est de savoir que le dropshipping, c'est une activité qui peut être légale, mais à condition que les produits vendus soient licites, conformes à la réglementation et non dangereux au regard de la réglementation en vigueur. L'important, c'est aussi que les vendeurs puissent respecter les règles applicables à la vente à distance en matière de droit de rétractation et ne pas mettre en œuvre des pratiques commerciales déloyales.
D'accord, mais au-delà de ça, il y a aussi de l'arnaque, quoi. Et puis, c'est pas éthique parce que parfois, ce sont des produits super bas de gamme. Enfin, à quelle arnaque est-ce qu'on peut être confronté ?
Alors, il y a de nombreuses arnaques que nous avons pu constater au niveau de la DGCCRF qui concernent à la fois les personnes qui veulent se lancer dans le dropshipping et les personnes qui veulent acheter sur ces sites. Alors, pour les personnes qui veulent acheter sur ces sites, une des arnaques les plus fréquentes est le fait d'avoir des prix gonflés avec des fausses promotions, soi-disant mirobolantes, qui peuvent aller de 50 à 80% affichées, qui seraient disponibles uniquement pendant un délai très court et avec des stocks fictifs qui seraient très réduits, ouais. Alors qu'en fait, ces personnes peuvent trouver ces mêmes produits sur d'autres places de marché pour un montant bien moins cher.
D'accord. Romain Roussel, on n'a pas fini d'en parler, évidemment. On se retrouve dans un instant sur RTL. On parlera également des sites de rencontres avec Adrienne de San Isidoro et puis des fraises avec Sonia Esguillon. Nous voilà bien, c'est tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Est-ce qu'on trouve vraiment l'amour sur les applications de rencontres ? On va en parler dans un instant. Allez, ramène ta fraise avec Sonia Esguillon qui va nous expliquer effectivement comment la cuisiner. Mais pour l'heure, est-ce que vous savez ce que c'est que le dropshipping ? Avec Romain Roussel, directeur de cabinet de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes. Alors, le dropshipping, on l'a compris, c'est la livraison directe. On pense acheter du côté du vendeur. En fait, en réalité, c'est un intermédiaire qui nous propose donc des produits, on va dire bien souvent bas de gamme, en réalité, que l'on va payer beaucoup plus cher, Romain Roussel.
Oui, tout à fait. Ce sont souvent des produits qui valent quelques euros, qui sont vendus bien plus cher aux consommateurs finaux.
Et comment, justement, les revendeurs font-ils connaître leurs produits, parce que j'imagine que vous nous l'avez dit, on peut tous quelque part, même si c'est un petit peu compliqué et fastidieux, devenir dropshipper. Comment est-ce qu'on se distingue sur les réseaux sociaux ?
Alors, les vendeurs ont recours principalement à la publicité ciblée sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est-à-dire les publicités qui apparaissent dans le fil de publication lorsque vous consultez votre compte et qui tiennent compte de vos centres d'intérêt. Mais très souvent aussi, les professionnels du dropshipping utilisent des services d'influenceurs pour promouvoir leurs produits.
Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que sur les réseaux sociaux, on a certains des influenceurs qui sont payés par les revendeurs. Hein. C'est ça qui valorise des produits vendus cher, alors que c'est de la gnognotte, c'est de la camelote.
Alors oui, tout à fait.
Mais ils savent ça, les influenceurs ?
Alors, c'est là tout l'enjeu. Et en tout état de cause, si les influenceurs sont rémunérés par les vendeurs pour faire la promotion de ces produits, cela doit être indiqué très clairement sur le site et sur les réseaux sociaux, ce qui très souvent n'est pas le cas. D'accord. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être considéré comme une pratique trompeuse et c'est punissable d'amende.
On peut se retourner contre des influenceurs alors ?
Alors les influenceurs, effectivement, encourent des peines de prison de 2 ans et de 300 000 euros d'amende s'ils pratiquent ces pratiques commerciales trompeuses.
Ah oui, mais il faut faire super attention. On a des recours donc en tant que consommateur, si je vous écoute, mais est-ce que je peux me faire rembourser, même si bon, je m'en prends au site, je m'en prends à l'influenceur, au dropshipper et tout. Mais est-ce que je peux me faire rembourser ou demander un dédommagement ?
Alors c'est souvent très difficile en pratique de se faire rembourser sur les sites de dropshipping, ne serait-ce que parce que les vendeurs sont souvent situés de l'autre côté de la planète. Donc c'est vraiment à l'achat qu'il faut être particulièrement vigilant pour ne pas se retrouver dans une position difficile.
D'accord.
En particulier, lorsque vous ne voyez pas sur les sites les annonces légales pour tout ce qui est adresse complète des vendeurs avec des moyens de les joindre au cas où le produit livré ne serait pas conforme. Si vous ne trouvez pas leur adresse mail ou un numéro de téléphone pour rappeler, il ne faut pas acheter sur ces sites.
Ok. Dites-moi, la loi, elle va s'adapter à un moment donné aussi pour lutter contre ces pratiques-là. Parce que plus on va être nombreux à tomber dans le panneau, plus il va y avoir de problématiques, il va falloir prendre en charge.
Alors en fait, les pratiques commerciales trompeuses permettent déjà à la DGCCRF d'instruire un certain nombre de dossiers et de pouvoir poursuivre à la fois les formateurs, les exploitants de boutiques de dropshipping qui ne seraient pas respectueux de la réglementation et les influenceurs qui feraient croire des choses fausses aux consommateurs. Okay. Alors c'est pour ça aussi que c'est important de faire la promotion sur les réseaux sociaux et sur notre site internet des pratiques qui sont légales. Je vous invite à consulter le site de la DGCCRF qui présente des fiches pratiques pour les personnes qui voudraient se lancer dans le dropshipping.
D'accord. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de ces arnaques 2.0 alors ?
La première chose, effectivement, c'est de prendre son temps lors de l'achat. Il faut bien comparer les prix et les caractéristiques des produits entre plusieurs sites avant de commander et faire jouer la concurrence.
Ouais.
Si l'identité et les coordonnées des vendeurs ne figurent pas, sur ce site, il ne faut pas acheter. Il faut aussi être vigilant et ne pas se laisser entraîner par les annonces proposées sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas particulièrement sollicitées et faire attention à la pression d'achat qui est mise par ces sites. Très souvent, ils nous mettent des compteurs pour vous inciter à acheter dans un délai très court, alors qu'en fait, la promotion sera encore valable le lendemain ou le surlendemain.
Okay,
et souvent,
d'accord.
La promotion en elle-même est fictive.
Et puis, je voudrais aussi citer qu'on peut se tourner vers vous. Et puis, il existe par ailleurs deux sites qui permettent de savoir s'il s'agit ou non de dropshipping. C'est Captain Drop et Anti-Drop. Voilà, et comme ça, on s'y retrouve. Je vous remercie beaucoup, Romain Roussel, d'avoir passé ce moment avec nous et de
merci
cette mise en garde très éclairante. Je ne vais pas vous demander si vous êtes déjà allé sur un site de rencontre. On ne s'est jamais croisés, vous et moi, sur un site de rencontre, Romain.
Pas ma connaissance.
Moi non plus. Allez, dans un instant, on va parler d'une enquête qui a été menée par 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup, Romain Roussel. À bientôt sur RTL. Bonjour Adrien de San Isidro.
Bonjour Flavie.
Quel joli nom. Vous êtes chef de la rubrique équipement et loisirs à 60 millions de consommateurs. Avec vous, on va parler des applis de rencontres. Il y a beaucoup de Français qui sont inscrits sur les sites et applis ?
Alors oui, ils sont des millions à y être inscrits. Selon une étude réalisée en fin 2020 par l'Institut de sondage IFOP, il serait même un Français majeur sur trois à les utiliser.
Ah oui ?
Ça fait du monde.
Ah oui, bah carrément. Ils sont payants tous ces sites ?
Alors, si on veut accéder à toutes les fonctionnalités, donc la recherche par critères ou l'envoi illimité de messages par exemple, il faut souvent passer à la caisse et en général, les abonnements sont facturés entre 30 et 40 euros par mois. Des tarifs jugés trop chers par 80% des personnes qu'on a sondées.
D'accord. Justement, vous avez mené une étude de l'indice de satisfaction des utilisateurs sur 7 sites de rencontres. Comment est-ce que vous avez procédé avec eux ?
Alors en fait, 60 millions de consommateurs ont interrogé un peu plus d'1 millier de Français en début d'année via un sondage composé d'une trentaine de questions pour connaître leur rapport aux sites de rencontres. Comment les utilisent-ils et surtout, en sont-ils contents ?
D'accord. Et la satisfaction alors ? Elle est au rendez-vous ou pas ?
Eh bien, la réponse est plutôt non en fait. Hein.
Ah.
Sur les 7 sites testé, la meilleure note est attribuée à Adopt un mec qui obtient de justesse la moyenne. Et les deux derniers sont Mythique et Disons Demain, deux plateformes qui appartiennent aux géants américains de la rencontre en ligne Match. Et en tout, seulement 24% des sondés disent être satisfaits de leur expérience.
Alors c'est marrant, vous parlez d'Adopt un mec qui me semble être une application plus récente. Mythique, j'ai l'impression qu'on parle des premiers. Et puis alors Disons Demain, c'est pour les plus âgés, non ?
Oui, tout à fait.
Pour les seniors ?
Ouais, exactement. C'est la cible des plus de 50-55 ans. Et à la base, Disons Demain était un site qui était jumelé à Mythique, en fait.
C'est ça.
Mais ces deux sites se sont fait racheter par le géant de la rencontre en ligne Match.
D'accord.
Américain.
Et qui ne fonctionne pas pour autant, donc on l'aura bien compris. En tout cas, il n'y a pas une grande satisfaction. Cupidon ne bosse pas très bien sur les applications de rencontres. Plus il y a d'inscrits, plus on a de chances de trouver l'amour ou pas ? Vous allez nous donner des petits conseils maintenant.
Bon, alors je vais être honnête, hein, la rencontre amoureuse n'est pas vraiment une science exacte.
Oui.
Mais ce qu'on a constaté, c'est que pour multiplier leurs chances de rencontre, les sondés utilisaient en moyenne 3 sites ou applications de drague différents en même temps. Alors de là à savoir si ces stratégies ont porté leurs fruits, c'est un peu difficile à dire.
D'accord, ok. Bon, et j'ai encore des questions à vous poser, hein. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On se retrouve dans un instant sur RTL et ensuite on parlera aussi gourmandise avec Sonia Esguillian. À tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Avant de sucrer les fraises avec Sonia Esguillian, on parle site de rencontre avec Adrien de Saint-Isidore, de 60 millions de consommateurs.
Donc je suis allée sur un de ces sites hein, et je me suis dit, les gars, on n'est pas là pour perdre du temps, on va multiplier nos chances de pécho. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis créé deux profils bien différents, on ratisse large.
On ratisse large. Adriane de San Isidoro, merci d'être avec nous. Vous nous l'avez expliqué, en tout cas c'est ce que font hein, ces consommateurs qui s'inscrivent sur les sites de rencontres. Vous avez mené une enquête pour 60 millions de consommateurs et ce que l'on peut dire c'est que les consommateurs ne sont pas forcément satisfaits puisque les notes ne sont absolument pas terribles, même si effectivement Adopte un mec est en haut du tableau. Dites-moi, il y a certains sites qui se démarquent quand même ou pas ?
Alors oui, alors comme on le disait tout à l'heure, certains utilisateurs ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier avec plusieurs plateformes. Mais en fait, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que concrètement, Tinder et Adopt un mec permettent de rencontrer le plus de personnes dans la vraie vie. Alors concrètement, par exemple, plus de 15% des utilisateurs de ces deux sites ont rencontré plus de 10 personnes, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Et évidemment, la rencontre dans la vraie vie, c'est ce qui reste le critère le plus important.
Et oui, donc c'est ce fameux passage du virtuel au réel qui, bien souvent, effectivement, peut poser problème. Vous avez entendu l'humoriste Thaïs, il y a un instant, avec justement son sketch sur les sites de rencontres.
Oui.
Elle parle des profils différents. Et c'est vrai que les faux profils, c'est quand même un vrai problème. Hein. C'est courant, ça ?
On suppose que oui, effectivement, que c'est assez courant.
Comment ça va ?
En préambule, il faut quand même rappeler qu'il est difficile d'évaluer concrètement le nombre de faux profils saisissant sur les sites de rencontres. Mmh. En revanche, on a pu mesurer le degré de suspicion de faux profils ressentis par les répondants. Et il est très élevé puisque 3 utilisateurs sur 4 pensent avoir déjà discuté avec des faux profils et un utilisateur sur 4 pense même que cette situation se produit souvent.
Oui, et donc dans ces cas-là, peu de chances d'aller à la rencontre réelle, on est bien d'accord.
Ah oui,
non, non, mais c'est vrai que ça pose un problème majeur, quoi, hein, effectivement.
Et oui, ça termine souvent en notre boudin, oui.
Voilà, on peut dire que ça comme ça. Le positionnement des sites à ce sujet, justement, comment est-ce qu'ils font pour lutter contre ça? Parce que c'est là, pour le coup, ça peut démotiver.
Ouais, tout à fait. Alors, de leur côté, les sites disent faire le nécessaire. Mais alors, selon la sociologue Catherine Lejeune, que j'ai pu interviewer dans l'article, les sites arrivent à plutôt bien modérer les photos, mais peinent à surveiller les échanges entre utilisateurs, tout simplement parce qu'ils sont très, très nombreux. Du coup, de nombreux arnaqueurs, qu'on appelle aussi brouteurs, échappent au radar des sites et continuent à saisir. Et quand ils sont bannis, ils reviennent souvent en créant un nouveau compte. Donc c'est un peu une lutte sans fin.
Et comment on les repère, les brouteurs, alors ?
Alors, en fait, il faut d'abord traquer les incohérences. Hein, c'est tout bête, mais bon, une photo d'un jeune homme revendiquant une 50aine d'années est plus que louche. Et si votre interlocuteur ou votre interlocutrice supposée commence à vous demander de l'argent, fuyez.
Ah ouais.
Vous êtes
bien sûr
sur un site de rencontre, pas sur une plateforme de dons. C'est quand même toujours bon à rappeler. D'ailleurs, attention au discours misérabiliste, le fils très malade ou la fille qui n'a pas assez d'argent pour continuer ses études sont très souvent des fictions totales conçues pour vous apitoyer et attendrir votre porte-monnaie.
Mais voilà. Quelle horreur.
Et j'ai un dernier tout petit conseil. Enfin, prenez garde aux personnes donnant rendez-vous rapidement sur d'autres canaux de discussion comme WhatsApp ou Hangout. En fait, c'est un moyen pour les escrocs d'échapper à la modération des sites de rencontres et d'obtenir votre contact personnel vous harceler à toute heure de la journée. Hein.
D'accord, donc grande méfiance. Et justement, est-ce que j'ai des recours si je ne suis pas satisfait des services d'un site de rencontre?
Alors, si on juge que le service n'est pas à la hauteur des promesses, il faut d'abord écrire au service réclamation du site, généralement cité dans les conditions générales d'utilisation, puis saisir dans un second temps, si on n'a reçu aucune réponse ou qu'elle n'est pas satisfaisante, il faut saisir le médiateur de la consommation rattaché au site. En général, le contact du médiateur est aussi inscrit dans les conditions générales d'utilisation du site.
Quand je parle de satisfaction, ça n'est pas forcément de trouver l'âme sœur, hein, on est bien d'accord, parce qu'on sait que potentiellement,
non,
c'est plus dans les services qui sont proposés et le service du site. Hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas voilà, ça fait 3 ans que je suis sur votre site, j'ai toujours pas trouvé l'âme sœur. Bon, non, on a une petite responsabilité dans l'histoire quand même.
Tous les sites n'ont aucune obligation de résultat sur le fait que vous avez trouvé ou pas l'âme sœur ou simplement un partenaire d'une nuit ou une partenaire d'une nuit. Par contre, effectivement, ils doivent fournir un certain nombre de services. Et si, par exemple, on n'arrive pas à utiliser son service correctement, c'est un problème. Et ça doit être indemnisé ou ça doit être remboursé au prorata, par exemple, du nombre de jours où le service a dysfonctionné.
Très bien. Bon, en tout cas, on sait qu'on peut le faire. Adrienne de San Isidoro, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions ce samedi matin. Je rappelle que vous êtes chef de la rubrique équipement et loisirs à 60 millions de consommateurs. Et dites-moi, je ne vous drague pas du tout, hein, mais vous aimez les fraises ?
Ah oui, j'aime beaucoup les fraises.
Vous allez nous écouter parce que Sonia Esguillan, dans un instant, va nous donner plein de recettes. Merci beaucoup, Adrienne.
On
va écouter. À bientôt.
Merci.
Sur RTL.
À bientôt.
Si je t'envoie les fraises de mon fraisier, c'est pour que t'oublies pas la mienne dans tes pensées.
En tout cas, la fraise de Sonia Esguillan, on n'oublie pas non plus. Bonjour Sonia. Bienvenue.
Bonjour Flavie. Bonjour à tous.
Et voilà arrivé les fraises, le fruit star de l'été.
Ah oui. Ça, c'est la gourmandise absolue, la couleur, le goût, le parfum, c'est assez magnifique.
Bon, dites-moi, en matière de fraises, il y en a pour tous les goûts, hein, il y a beaucoup de variétés.
Oui, alors ça, il faut s'y retrouver. Alors après, moi, ce qui m'amuse souvent, c'est les gens qui essayent sur les marchés de renifler pour voir la fraise, si elle est comme il convient. Ah ouais. C'est très, très difficile quand même de bien choisir les fraises. Alors après, on a des variétés qui sont plus particulièrement parfumées. Moi, j'aime beaucoup la Darcelec. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a vraiment un parfum de fraise des bois.
Ah, c'est bon ça.
Ah non, mais là, c'est terrible. Parce qu'à l'origine, les fraises qu'on connaissait étaient essentiellement des fraises des bois. C'est par hybridation qu'on a réussi, au temps de Louis XIV d'ailleurs, à faire des fraises un peu plus grosses et parfumées. Mmh. Et puis ensuite, des fraises du Chili sont arrivées. Mais celles qu'on connaît aujourd'hui sont des fraises, par exemple la Darcelec, elle a vraiment ce côté fraise des bois qui est vraiment la note importante des desserts qu'on aime réaliser au printemps et à l'été.
La fraise sauvage donc. Sonia Esgulian, voilà. On se retrouve dans un instant. Comment bien choisir ses fraises? Comment cueillir les fraises sauvages? Où les trouver? Et puis alors, cette histoire de consommation aussi rapide, hein, parce que c'est vrai, quand on achète des fraises, parfois le soir elles sont déjà gâtées. Donc c'est toujours un peu dommage et du coup on ne sait pas trop quoi en faire. Ce sera dans un instant sur RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Nous voilà bien. Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien. Vous aimez les fraises ?
Les fraises, les framboises, le bon vin, tout à vous, et les berges, la joie,
c'est un peu. Mais tout le monde aime les fraises, n'est-ce pas, ma chère Sonia Esgulian ?
Ben je pense. Écoutez, j'ai rarement connu des gens qui n'aimaient pas les fraises.
Alors c'est marrant, en même temps, tout le monde achète des fraises, mais pardon, elles se gâchent super vite et parfois on les mange pas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est très étrange.
Ben, c'est-à-dire que la fraise, c'est extrêmement fragile.
C'est
alors
ça.
C'est sûr que s'il fait très chaud, quand on les ramène à la maison, c'est vrai qu'il faut éviter de les mettre au réfrigérateur. Donc on peut les laisser dans la barquette et dans le petit sac Kraft dans la cuisine.
D'accord.
Le problème,
tout de suite, quoi.
Voilà, le problème, c'est qu'il faut pratiquement les consommer dans la journée. Mmh. Alors après, pas de problème, si elles sont un tout petit peu flétries, on peut aussi les faire cuire. On peut faire une simple compotée avec de la rhubarbe, on peut faire une sorte de confiture ultra rapide en les faisant cuire avec un peu de miel et on les dégustera sur des tartines ou avec du fromage blanc. Mmh. C'est pas non plus complètement fichu quand elles sont un peu ramollo. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est un des fruits les plus fragiles que je connaisse.
Et alors, donc pour bien les choisir, il faut... Alors, bon, il y a l'odeur. Hein, vous nous parliez de ceux qui, effectivement, ont le nez dans les fraises. Parce que c'est vrai qu'il y a des fraises qui sont odorantes et qui, quelque part, suscitent notre gourmandise. Mais il faut qu'elles soient quoi? Fermes, comme d'habitude, avec les fruits et les légumes, quoi. Fermes,
fraîches. Oui, c'est ça,
fraîches,
c'est assez ferme. Alors, c'est vrai que
verte.
Souvent, on regarde, les très, très gros fruits sont souvent... Enfin, moi, je constate que c'est un peu déceptif. Donc, j'évite d'acheter des fraises géantes parce que je trouve qu'on est toujours un petit peu... déçues par la texture. Quelquefois, elles sont vraiment très bonnes, mais c'est pas très agréable à déguster. Alors, quand c'est des très grosses fraises, on peut les couper en tout petits dés, puis par exemple, les manger sur une panna cotta. C'est très très bon. Mais c'est pas forcément la fraise chouette. Moi, j'aime bien des fraises assez petites, des fraises qui sont pas plus grosses qu'une cerise, par exemple.
Et
là, je trouve que voilà, la chair est top.
Ça sert à quelque chose d'acheter des fraises à peine mûres? Est-ce qu'elles mûrissent toujours dans leur...
Je ne crois pas parce qu'avant qu'elles prennent, c'est comme certains fruits, franchement, c'est quand même mieux de les acheter bien, bien mûres. C'est-à-dire vraiment au
prêtes
moment
consommer,
où
quoi.
Elles sont top pour consommer. Parce que ça ne va pas être facile de les garder à la maison parce que justement, il va faire très chaud et elles ne vont pas forcément mûrir. Donc ça, c'est un peu dommage. Il vaut mieux les acheter. Alors après... On repère hein, sur le marché, on discute, on demande aux maraîchers. Très souvent, ils nous font goûter quand même une petite fraise avec un petit sourire. On lève le masque 2 secondes, on fait un petit sourire ou un petit clin d'œil maintenant avec le masque. Et on demande aux maraîchers si on peut goûter, parce que ça aussi, ça peut être sympa pour découvrir, un, la variété qu'on aime bien, et puis repérer le maraîcher qui fait des bonnes fraises. Ça, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est comme pour certains produits, il y a vraiment une recherche à faire pour trouver son bon approvisionnement.
Est-ce qu'on peut cueillir des fraises sauvages? Moi, je faisais ça avec mon grand-père, mais
oui,
alors c'est
aller,
rare. Hein,
les petites fraises des bois. Alors, la fraise, ça pousse très très bien en pot. Donc, si on a envie aussi de se faire plaisir, on peut mettre 1 ou 2 pieds de fraisier sur le rebord de sa fenêtre. C'est toujours délicat de pouvoir cueillir quelques fraises sur son petit balcon. Ça, c'est chouette. Mais évidemment qu'on peut aller, quand on est en balade, ça fait partie des plaisirs de ces petites randonnées, c'est la cueillette. Donc là, on a aussi des fraises très aromatiques, un peu, pas forcément que des fraises des bois, toutes petites, mais des fraises sauvages.
Alors, comment on les cuisine? Bon, on a bien compris, pour éviter le gaspillage, des fraises abîmées, vous nous avez dit, on peut faire une petite compotée, on peut faire une petite confiture de dernière minute, une petite purée de fraises, bon, ça c'est très bien. Maintenant, si j'ai des fraises fraîches, que je peux consommer maintenant, mais que j'ai pas simplement envie de consommer avec juste du sucre ou un peu de crème battue.
Bah, en fait, j'ai envie de laisser de côté les desserts, parce que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir comment faire les fraises, parce qu'on a des desserts très simples, des desserts un peu plus sophistiqués. Les fraises, c'est top dans les plats salés. Je donne quelques exemples. La fraise et le parmesan, c'est absolument délicieux. C'est un mélange délicat. Moi, je fais des petits sablés au parmesan. Et ensuite, je découpe des lamelles de fraises que je sers avec de la roquette. Et ça, c'est entre le dessert et le fromage. On ne sait pas trop exactement ce que c'est que ce plat, mais c'est un plat très original qui peut servir à la fois de fromage et de dessert. La fraise, c'est délicieux avec les petits pois. Donc, par exemple, on fait cuire des petits pois, donc on va mettre dans sa cocotte un tout petit peu de beurre, on va mettre les petits pois, donc fraîchement écossés, on va mettre un ou deux petits oignons frais, donc les petits oignons cébettes là qui sont tout tendres, on va faire revenir tout doucement pendant une dizaine de minutes, et au dernier moment, on va mettre quelques gouttes de vinaigre balsamique et on va couper des fraises, on va pas les laisser cuire trop longtemps, parce que ce serait dommage d'avoir une bouillie, et on va déguster donc cette petite cocotte de petits pois avec les fraises. C'est vraiment très très bon. Autre idée avec les fraises, ce sont par exemple les tartares de poisson. Moi, j'aime beaucoup faire le tartare, par exemple, de cabillaud, ou en ce moment, il y a les sardines qui commencent à arriver sur le marché, toutes dodues. Eh bien, on va découper les sardines en filets d'abord, et puis ensuite en petits tronçons. Et on va tailler les fraises en tout petits dés, et on va faire un assaisonnement avec de l'estragon, un peu d'huile d'olive. Et là, franchement, le mélange, c'est très étonnant, mais vraiment délicieux.
Est-ce que vous m'autorisez deux petites recettes aussi que je vais partager avec vous? Parce que je me demandais si on irait sur le même terrain. Alors moi, je vais vous dire ce que je fais avec des fraises. Je fais un carpaccio de figues et de fraises, donc que je coupe très finement, que je mets sur une assiette. Je fais figues, fraises. J'émiette de la feta sur sur ce petit carpaccio. Je mets quelques pignons de pain et un filet d'huile d'olive, et je trouve que c'est une entrée absolument délicieuse. Je sais pas si vous connaissez.
Savoureux. Non, j'en ai l'eau à la bouche.
Mais je me suis lancée un jour dans cette création et je dois convenir que j'ai adoré. Et sinon, en dessert, une soupe donc de fraises. Je prends mes fraises, je les fais mariner, je dirais, dans du sirop d'agave ou dans du sirop de canne, de sucre de canne. Je les laisse vraiment un petit peu de temps, donc le temps que ça imbibe les fraises. Je mets des baies roses, beaucoup de baies roses.
Ah oui, ça c'est
parce que je trouve ça mais délicieux, et des feuilles de basilic, et ça fait une petite soupe pour l'été que vous laissez au frais. Bon, et c'est super bon. Voilà.
Je pense qu'on va inverser les rôles, je vais papoter.
Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que justement, je m'ennuyais avec les fraises. J'avais l'impression qu'on ne les consommait que d'une façon. Et effectivement, grâce à vos recettes et parfois un petit peu de créativité, exactement, on arrive à en faire vraiment quelque chose. Dernière question, parce que je sais que vous êtes pour l'anti-gaspi et vous êtes bourré de conseils. On peut faire un truc avec la queue de la fraise ou pas?
Ah oui.
Ah bon?
Le petit pédoncule. Alors déjà, quand on lave les fraises, si jamais elles sont légèrement avec un petit peu de sable ou d'un peu de terre, on les passe très rapidement sous un filet d'eau fraîche. Et évidemment, on n'enlève pas le pédoncule quand on les lave, parce que sinon elles vont se gorger d'eau.
Donc on les
lave avec le petit pédoncule. Et qu'est-ce qu'on fait du petit pédoncule? Eh ben, je les récupère tous, je les mets dans une bouteille, j'ajoute de l'eau, je laisse mariner pendant 2 heures et ça me fait une eau de fraise très parfumée. C'est génial.
Tellement bien.
Ah non, mais c'est étonnant, parce que d'abord, on se dit, mais cette petite partie-là, c'est pas forcément très parfumée en fraise. Eh bien, c'est totalement incroyable. Alors, on peut la déguster nature, cette eau de fraise. Et puis, si on a envie, pour les enfants, de rajouter un tout petit peu de sucre, moi, je préfère mettre un tout petit peu de miel. Et franchement, c'est étonnant. On l'a fait uniquement avec les petites queues de fraise.
C'est génial. Et puis après, peut-être un filet de citron vert. Et là, c'est super.
Elle est top. C'est pas beau, la vie, là.
Ah si, ben voilà.
Voilà, la vie en fraise, on adore.
Exactement. Merci beaucoup, Sonia Esguillan, pour ces recettes pour nos auditeurs que l'on peut retrouver sur votre page Instagram. Et puis je salue aussi votre nouveau livre, Ma petite cuisine potagère, aux éditions Flammarion. Elle n'est pas petite, c'est de la grande cuisine. Merci beaucoup, Sonia Esguillan.
Merci, Flavie.
À bientôt sur RTL. Ce n'est qu'à nous revoir, Sonia. Mais c'est déjà la fin, nous voilà bien. Voilà. Vous n'avez pas tout retenu de cette émission. Rendez-vous sur l'appli RTL ou sur Radio Player France pour le replay et sur nos réseaux sociaux pour les recettes. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end à l'écoute d'RTL évidemment. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.